Odile avec vous de 17h à 18h. Bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 pour notre émission du mercredi, passionnément vôtre, où je suis ravie d'accueillir en direct un nouvel invité dans un instant. Bien, bonjour à tous, tous nos auditeurs de Fréquence Mistral et bonjour à mon invité, c'est Marianne Grand que je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Alors Marianne, pour cette émission passionnément vôtre, bien sûr, vous êtes venue pour nous parler d'une passion, d'une passion créatrice.
Oui, plutôt.
Plutôt. Rêver et partager. Créer,
oui, bah rêver, parce que bah pour moi, c'est là que se manifeste la création, c'est que je passe beaucoup de temps à rêver. C'est un moment important pour moi, c'est souvent le matin. Et c'est là que je dirais, je ne sais pas, je me mets dans un état de disponibilité, de réceptivité. Pour laisser venir. Bon, alors après, c'est toutes sortes de choses qui viennent, bien sûr, mais c'est pas un projet précis, mais c'est des choses de, je sais pas comment, d'idée de ce que une journée va être et comment elle va couler avec des jeux, création, enfin je veux dire de créer des choses inattendues, inhabituelles dans ma journée, que ma journée soit elle démarre dans cet état-là où je rêve, alors ça paraît être peut-être coupé de la réalité, mais c'est déjà là que la réalité se met en route le matin, en fait, à vrai dire. Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est un peu, voilà. Et après, c'est vrai que quand je rentre après dans la création, j'ai l'impression d'être, quand je me mets à peindre, ou quand je me mets à écrire, ou quand je me mets à, comment dire, organiser des ateliers, enfin déjà prévoir des ateliers, puisque j'anime pas mal d'ateliers de création, enfin d'écriture, entre autres, mais aussi de peinture. Et ben voilà, c'est le matin que tout ça se met en place, les choses s'affinent dans ma tête. Et puis ben voilà, elles prennent forme après dans la journée. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, voilà, j'ai un temps vraiment de rêve qui est très important pour moi chaque jour et qui débouche après sur la création dans la journée. Voilà. Et puis après, il y a aussi le temps de partage, puisque c'est vrai que je crée pour moi, mais je crois que je crée aussi surtout et avec pour les autres et avec les autres. J'ai besoin de ce lien, j'ai besoin de transmettre ce que je vis, ce que j'aime. Et voilà, donc c'est pour ça que j'anime entre autres des ateliers. Et puis il y a d'autres choses qui sont... Voilà.
Alors, des ateliers d'écriture, enfin, on le sait, moi je le sais depuis longtemps, mais pas que ça. Il y a de l'expression corporelle, la peinture, beaucoup de choses dans cet atelier transversal dont on parlera tout à l'heure. Mais...
Oui, parce qu'en fait, pour moi, la création, bon, c'est vrai que je parle souvent de création parce que je dirais un peu tout est prétexte pour moi à créer. C'est-à-dire à inventer, à rendre des choses neuves, à transformer les choses. Ça peut être des moments de la vie. Tout simplement, je disais, parfois, c'est simplement de changer de chemin pour rentrer chez moi. C'est jouer avec la matière de la vie, quoi. Je ne sais pas comment exprimer, mais voilà. Et donc, et après, ça se traduit par des formes plus précises dans la création plastique ou la création littéraire. Ça peut être des textes, ça peut être... effectivement de la peinture, c'est un travail corporel aussi à travers la danse et puis d'autres pratiques, puisque bon, j'ai pratiqué très longtemps un art du mouvement qui s'appelle le Kinomichi. Voilà, donc pour moi, tout ça se mêle et j'ai à cœur que ça se mêle, en fait. Voilà. Donc, c'est ça aussi que maintenant, de plus en plus, je partage, puisque bon, au départ, j'ai commencé par des ateliers d'écriture, mais d'emblée, le projet était vraiment de relier, parce que bon, j'expliquerai pourquoi après j'ai besoin de relier, et c'est pas purement. Après tout, ça aurait pu être une décision comme ça, mais pour moi, il y a du sens dans tout ça. Voilà.
Donc, assez rêveuse depuis toute petite, mais quand même bien ancrée dans la réalité et très réceptive, tous les sens sont développés.
Voilà.
Depuis toujours, il y a cette sensibilité.
Oui, je pense que. D'ailleurs, je me suis rendu compte que oui, j'étais très, très, très sensible. Mes perceptions sont très très aiguës, et que du coup j'aime partager ça, c'est-à-dire que j'aime transmettre des expériences sensorielles pour faire ressentir avec plus d'acuité encore le son, le toucher, enfin vraiment de mettre les gens dans des expériences. Et j'aime beaucoup, par exemple, mettre les gens dans le noir.
Dans le noir.
Dans la nuit, dans le noir, pour parce que justement, il y a
des choses qui se révèlent, comme un révélateur.
Il y a un sens qui est coupé, et du coup, la vue, puis qui est quand même très sollicitée à longueur de journée, et qu'à ce moment-là, d'autres choses. On est sensible à d'autres choses, et ça devient beaucoup plus intéressant. Et là, pour moi, la création se nourrit de tout ce qu'on perçoit, de tout ce qu'on reçoit. Et plus on est nourri, plus on a de choses après à dire, à transmettre. Enfin, il me semble. En tout cas, c'est mon axe de travail, quoi. Voilà.
Alors, pour en revenir au tout départ de la création, depuis la naissance de Marianne Grand, une vie à la campagne, quand même, qui a peut-être aidé à être à l'écoute de l'environnement, de la nature.
Oui, c'est sûr que oui, j'avais à cœur. J'ai vraiment une relation très très profonde avec la nature, avec les arbres en particulier. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir des arbres dans mon environnement, y compris à Paris où j'ai réussi à avoir toujours des arbres proche de moi. Donc c'était un peu un défi, mais voilà, ça se fait. Il y en a. Et parce que oui, il y a un échange, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui se produit dans la nature que, enfin, je sais pas, je me sens vraiment dans une grande harmonie dès que je suis en contact avec la terre, les plantes, les pierres. J'aime beaucoup les pierres, ça s'explique pas trop, mais voilà, c'est une sensibilité et une joie d'être vraiment. Dans des paysages différents, je sais pas, il y a vraiment je ressens une profonde harmonie quand je suis dans la nature.
Alors Marianne Grand, c'est tous les sens en éveil, ça passe aussi bien. Est-ce qu'il y a un sens qui est plus développé que les autres?
Alors, difficile à dire, mais c'est vrai que j'ai une très très grande sensibilité au son. D'ailleurs, ce qui m'a amené à faire pas mal d'expériences avec le son, avec des gens d'ici d'ailleurs, on en parlera peut-être après. J'ai fait ces croisements avec l'écriture. Mais c'est vrai que le son, la musique, quand je dis le son, parce que je parle du son parce que c'est pas seulement la musique, c'est aussi des ambiances naturelles ou des jeux sonores avec la langue. Enfin, je veux dire que... Enfin, la langue dans le sens du parler de la langue. Mm-hmm. Mais voilà, c'est aussi... pendant tout un temps, j'ai fait des choses avec les bols tibétains. Je sais pas, il y a... J'ai fait tout un... J'ai accompagné pas mal... Patrick Romieux, qui est donc ethnologue du son... dans des expériences d'écoute, et où je me suis retrouvée par exemple à le suivre pendant la fête de Thoar, la fête la Saint-Blaise, où là j'étais vraiment tous les sens, enfin surtout l'écoute, mais vraiment extrêmement affûtée, et j'étais vraiment presque, j'allais dire, une bulle de son, quoi. C'est-à-dire que j'étais complètement impliquée dans le son, Et je faisais un commentaire sur ce que j'écoutais, quoi. C'était donc assez particulier. Mais du coup, là, j'ai vu à quel point je pouvais être complète, je pouvais devenir son, quoi. Voilà, c'était une expérience, je veux dire, quasi transcendantale de, voilà, de, d'être complètement, de coller complètement. Mais je crois que j'ai cette capacité, justement, à me fondre. Mm-hmm. Quand je parlais de la nature, j'avais déjà cette... c'est un peu ce que je ressens. Et voilà, quand je suis dans le son, c'est pareil. Il y a ce même... Bon, après, et c'est pour ça que, par exemple, le son est très important quand je... Quand je danse, par exemple, parce que justement, il m'amène quelque chose comme ça, d'une présence très très forte. À un moment donné, je deviens, je pense que quelque part, oui, je le dis, je deviens son, je me disparais dans le son.
Ça donne quoi, ça? Disparaître dans le son? Bah, c'est-à-dire ça se traduit comment?
Ça se traduit que je Alors, pour dire, c'est pas une perte de connaissance. Est-ce que ça pourrait être une perte d'identité? C'est-à-dire que je n'ai plus conscience d'être Marianne. Voilà, mm-hmm. je suis au-delà de... Enfin, je veux dire, au-delà de ça. C'est-à-dire que je...
En transe, quoi. Une transe, ouais, ou en méditation.
Alors,
ou...
Oui. Alors, après, ce qui est curieux, ce qui me gêne dans le terme de transe... que ça pourrait, enfin, à vrai dire, ça pourrait être ça, c'est que, alors je ne sais pas, je connais peut-être mal le fonctionnement d'une transe, c'est qu'une transe, mais je dirais que dans la transe, enfin, dans ce que je vis en tout cas, plutôt, j'ai l'impression d'être en même temps extrêmement présente. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a cette espèce de, on va dire, dissolution de l'identité, et puis en même temps, une présence très forte à tout ce qui est autour de moi. Je suis pas en perte de contact avec la réalité, je suis pas dans un autre monde. Je suis vraiment, au contraire, plus présente, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Alors, je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est plus une expérience et c'est toujours difficile de traduire, voilà, ce genre de ressenti, en fait. Hein.
On va revenir à la jeunesse à la campagne, pour mieux vous connaître. Et l'amour des livres très jeune.
Bah, oui, parce que... Oui,
fille unique, on peut le dire. Est-ce que...
Non, j'avais une sœur.
Ah non, je pensais. Unique.
Non, j'avais erreur. Une sœur. J'avais une sœur. Non, non. Uh-huh. Oui, peut-être. Les livres, je ne sais pas trop expliquer. Enfin, pourquoi, mais bon, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. C'est vrai que j'aimais beaucoup lire. Je lisais énormément. Des romans et de la poésie. Et je pense que c'était aussi pour moi déjà, parce que j'ai quand même vraiment un goût assez fort de l'intériorisation, et que c'était déjà un peu me créer une espèce de bulle, et de voyager aussi à travers les livres, parce que bon, c'était sortir de là où j'étais, et voilà, pour le coup, vraiment, voilà, partir dans d'autres mondes, et puis une curiosité de ce que d'autres pouvaient avoir vécu, d'autres sensibilités, et puis la joie des mots, du sens, la grande joie de la poésie et des mots des poètes, parce que je pense, enfin, moi c'est vrai que dans le langage, dans mon rapport à la langue, en tout cas, j'aime beaucoup la poésie parce que elle est, alors bon, ça dépend quelle poésie, bien sûr, mais je pense qu'elle donne la possibilité d'ouvrir les mots à des sens qui peuvent nous toucher plus ou qui nous font plus voyager. Enfin, il y a aussi du voyage dans la poésie. Enfin, pour moi aussi, enfin, il y a ça, il y a le voyage, il y a l'ouverture aussi, une ouverture à plus que ce que sont les mots, quoi. Voilà.
Alors, ce goût de la lecture est venu... Pas par le milieu scolaire, j'imagine. ou alors la scolarité était bien à l'époque. Mais...
est-ce que c'est les souffert, j'ai pas trop.
Est-ce que c'est la famille qui quel a été le...
Bah, je sais pas trop, à vrai dire. Je peux dire que j'étais...
Le premier livre que vous avez lu ou qui vous a donné envie de lire beaucoup plus, est-ce qu'il y a eu... c'est un oncle, une tante qui a offert le premier...
J'ai beaucoup de mal à situer le moment où j'ai commencé à lire. Je crois qu'il y avait beaucoup, il y avait quand même des livres chez moi, ça c'est assez certain, donc c'était quand même une facilité voilà, pour avoir accès aux livres. Après, moi je lisais tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qui me tombait sous la main. J'allais dans une, j'habitais un petit village, il y avait une petite bibliothèque, je me souviens qu'il y avait des livres. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il me tomberait des mains, mais largement. Mais bon, j'avais la joie de lire tout ce que je trouvais. Voilà, c'était un plaisir, donc je m'en privais pas. Et voilà, du coup, j'ai lu toutes sortes de choses, vraiment très, très diverses. Et sans être guidée, c'était, oui, je pense que mes parents ne m'ont pas du tout, sont pas du tout intervenus dans mes choix. Et c'était, très, c'était superbe, c'était une grande liberté de... même de lire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas trop eu envie que je lise, mais c'était pas grave, je balayais tout un peu. J'étais curieuse, je dévorais. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, et avec donc une musique que vous avez choisie, c'est I Don't Know. Oui.
De Noah.
De Noah.
Flower colors bright, I am strong. Fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own. But I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? Am I strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flower colored bright, I am strong, I can't fight. But I don't know, I don't know, I don't know.
Voilà, c'était Noah, I Don't Know, et nous retrouvons Marianne Grand dans cette émission Passionnément Vôtre sur Fréquence Mistral 99.3. Marianne Grand, donc, qui nous parle de la création, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne pouvez vous empêcher de créer, et depuis très jeune déjà. On va parler donc de votre formation et de ce qui vous a amené à faire une maison d'édition. À créer une maison d'édition quand vous étiez parisienne.
Voilà.
Comment ça a démarré, ça?
Bah, en fait, j'ai au sortir de l'école, en fait, je me suis formée à l'école Estienne. J'ai fait une formation d'édition. Et bon, bah, petit à petit, je suis rentrée dans le monde de l'édition. C'était vraiment mon choix de départ. Hein. J'avais vraiment envie de, bah, voilà, dans la poursuite du goût des livres, de poursuivre ça, d'aller, voilà. Pour moi, c'était, à travers l'édition, c'était à la fois transmettre quelque chose, du sens, ça c'est sûr. Et puis être aussi en lien avec justement la personne qui crée et l'aider aussi à peut-être parfois, bon, c'est pas toujours le cas parce que parfois c'est, l'enfant est déjà bien né, on va dire, mais accoucher du texte ou voilà, déjà c'était ça, je me souviens, ça, c'est un grand plaisir de travailler avec les auteurs. Et donc voilà, et j'ai eu la chance, et puis j'ai aussi un peu cultivé cette chance, on va dire, en cherchant vraiment toujours à rester au cœur, ce que j'appelle au cœur de l'édition, c'est-à-dire vraiment en lien avec l'éditorial, donc la relation avec les auteurs, mais aussi en lien avec la commercialisation du livre, parce que l'édition, c'est un métier qui est intermédiaire entre la création, enfin, oui, la création de la personne qui, voilà, qui est dans son atelier ou dans son bureau, dans son, qui écrit ou qui... voilà.
Vous êtes à ce moment-là un passeur.
Oui, presque voilà, c'est ça. En fait, il y a parce que, en fait, de cette création qui est individuelle, ben, voilà, ça va devenir quelque chose qui va aller vers les autres.
Qui va être partagé.
Qui va être partagé, ouais. Et donc qui va prendre aussi forme. Parce que je me suis rendu compte que c'est la joie que j'ai eue la première fois où voilà, j'ai vu le premier livre sur lequel j'avais travailler, de le recevoir de l'imprimerie, c'était vraiment une grande joie, ça avait pris forme, voilà. Et je crois que voilà, ça aussi c'est un élément que je retrouve encore aujourd'hui, le plaisir de donner forme, que les choses prennent forme. Et voilà, donc en fait après je me suis bon, j'ai fait différentes maisons d'édition et j'ai atterri dans une très grosse maison d'édition dont maintenant d'un coup le nom m'échappe, mais bon voilà, c'était
par rapport au livre d'humour, c'est ça, la BD?
Alors, ou
c'est
en fait pas... on était, parce qu'on était au sein d'une en fait c'était Havas à l'époque, et après ça a été je me retrouve plus le nom, bon voilà, c'est pas grave,
Nathan, et je vois,
non mais Nathan ça a été après, et d'accord. En fait là c'était au sein de cette grosse structure très commerciale. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Fedjens et qui avait lui déjà écrit des livres, qui était éditeur. Et on bouillonnait d'idées, de projets de livres, d'envie, de partager nos passions, quoi. Et qui était beaucoup autour de l'humour, de la BD. Et puis, on a fait aussi des livres de photos. Là, j'ai eu la joie vraiment de rencontrer des grands photographes. Et c'était passionnant de travailler avec eux.
Alors justement, encore une parenthèse. Est-ce que vous faites de la photo aussi?
Alors, non, j'utilise des appareils photo. J'utilise la photo parce que c'est utile. Je ne fais pas particulièrement de photos. Enfin, quoique, oui, j'avais appris, j'ai fait du développement, j'ai travaillé ça, oui, à un moment donné. Mais ça pourrait, je veux dire, parce que pour moi, tout est matière, voilà... Si j'ai besoin de le faire, je l'utilise par exemple au sein de la maquette. J'ai travaillé la maquette pendant pas mal d'années, je continue à faire pas mal de maquettes. Et donc bon bah voilà, j'ai besoin d'images, maintenant je les fais, c'est bon voilà. Donc c'est, de toute façon, je pense que quand on développe une certaine réceptivité, une certaine sensibilité, elle peut se traduire après sous plein de formes. je suis pas, enfin je veux dire que voilà, après c'est la forme peut être donc photographique, peut être picturale, peut être littéraire. Alors après on peut avoir des affinités plus ou moins grandes avec certains médiums, enfin certains médias, mais bon voilà quoi, c'est la même démarche de toute façon à mon avis. Et voilà, donc et puis donc on a donc j'ai participé donc à la création d'une petite structure au sein d'une grosse maison. Donc cette petite structure s'appelait Hors Collection, portait bien son nom, c'est-à-dire qu'en fait on publiait des choses qui n'étaient pas publiées ailleurs. Et puis on s'est vraiment amusé, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça quoi. C'était vraiment dingue qu'on nous donne cette possibilité, puisque on avait une petite structure éditoriale et on bénéficiait de tous les services de fabrication, commerciaux, de presse, de cette grosse structure. Donc c'était royal, on va dire.
Et ensuite, directrice de collection pour Nathan Jeunesse, c'est encore
voilà.
autre chose.
Alors après, oui, j'ai quitté l'édition parce que c'est vrai que j'étais arrivée peut-être à justement un seuil où je n'étais plus en lien suffisamment avec la création et j'étais beaucoup dans des histoires d'organisation, de commercialisation. Et là, ça a commencé à devenir un peu lourd.
Moins drôle.
Et puis, je suis perdue du sens, en fait, par rapport à ce que je faisais. Il y avait des choses là qui n'étaient plus en lien avec avec mon élan, on va dire. Et donc j'ai quitté l'intérieur de pour aller sur les marges, on va dire. Et là j'ai travaillé, j'avais déjà commencé à travailler un peu sur des livres jeunesse avec les éditions Nathan, où j'ai été directrice de collection d'une collection de jeux. Et j'ai à ce moment-là aussi créé un petit livre d'humour pour les enfants. Et puis un livre, j'ai écrit à ce moment-là un livre aussi sur les plantes qui m'avait été commandé par un éditeur parce que j'étais passionnée de nature.
Des plantes aussi.
Voilà, de plantes, arbres, plantes, ouais. Voilà, c'est plus que des animaux, mais voilà, j'ai un lien plus fort avec le végétal. Et donc là, le projet, c'était de cueillir. Et donc de ramasser et puis ensuite de cuisiner. Voilà, donc ça s'appelle toujours, mais bon, je pense que le livre est peut-être épuisé. Ça s'appelle Cueillette gourmande et c'était aux éditions Solar. Voilà. Et donc ça, c'était aussi un super parce que voilà, je suis passée du côté des auteurs après avoir été éditeur. Donc c'était encore, je
encore un
totalement
pas,
la
ouais.
chaîne. Donc c'était chouette. Et voilà, donc c'était encore être dans la création, une autre forme de création. C'était pas évident d'ailleurs, parce que voilà, c'est là qu'on voit, enfin, qu'on se rend compte que le travail d'écriture, c'est une fois que c'est fait, ça paraît simple. Enfin, je trouve, mais bon, c'était quand même pas mal de boulot.
Et alors après, c'est de suite dans les ateliers d'écriture, le passage. Vous êtes dans les Alpes d'Haute-Provence, vous vivez ici depuis quelques années.
Depuis une dizaine d'années,
et ouais. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à...
Bah en fait, oui, j'ai senti, bon, voilà, l'édition, il y avait, bon, j'avais ce travail de directrice de collection, mais je sentais que j'avais envie d'aller plus loin de me rapprocher de la création, pour moi peut-être aussi, mais aussi par rapport aux autres. Et je me suis dit finalement que l'animation d'atelier d'écriture pourrait être un pas supplémentaire vers l'écriture et vers le partage aussi. Enfin, toujours, j'aime bien ce partage avec les autres et puis de créer ensemble aussi. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Dans les ateliers d'écriture, il y a vraiment ce moment de... Bon, alors il y a la mise en route de l'écriture. Bon, ça, c'est un travail, puisque ça se... Enfin, moi, je le réfléchis.
Vous avez été formée à ça ?
Oui. Oui, j'ai fait une première formation à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait une formation ici, dans les Alpes de Haute-Provence, avec... comment elle s'appelle ? Mireille et Frédéric de Terre d'Encre, hein, qui sont dans la vallée du Jabron, qui font un magnifique travail... pas mal centrée sur la poésie, mais je trouve qu'elles ont une approche vraiment superbe. Et donc, après, j'ai retravaillé avec elles, parce qu'elles apportaient une autre façon de faire. Et puis qu'en fait, c'est toujours passionnant de réfléchir, enfin de réfléchir, oui, de réfléchir à comment, comment déclencher l'écriture. Alors après, ça, quand on commence à travailler sur ce qu'on appelle donc les processus de création, ben ça, c'est valable pour tout, quoi. Enfin, je veux dire que si on sait, je pense, mettre en route la création au niveau littéraire, après, ben, on peut aussi trouver des moyens de... Enfin, même si chaque discipline a un peu ses fonctionnements, mais voilà, il y a après quand même une compréhension de comment déclencher la création, quoi, chez les personnes. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui a toujours été... Enfin, après,
et ça s'apprend. Passionnant.
Alors après, je pense qu'on peut le découvrir seul.
Ça demande de se connaître d'abord, ça demande de...
Ben, c'est-à-dire que...
Savoir un peu comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous...
Ouais, alors je pense que oui, on peut partir de son propre fonctionnement. Cela dit, il y a des écrivains qui sont des très mauvais animateurs d'ateliers d'écriture. Oui. Parce qu'en fait, il faut être capable de s'extraire de sa propre pratique pour l'observer et savoir comment elle fonctionne. Et je trouve que dans la formation, ce qui est intéressant, c'est qu'on balaye différents modes de fonctionnement. Parce qu'en fait... si on voit, moi je vois rien que au cœur des, enfin au sein des ateliers d'écriture, les fonctionnements de chacun sont différents. Je veux dire, il y en a un qui va avoir besoin de temps, d'autres qui vont être tout de suite dedans. Après, ça peut être avoir besoin d'entendre ou d'être nourri, alors que d'autres, au contraire, ils vont avoir besoin peut-être
c'est aussi très peu de choses. Des fois, lâcher les références qu'on peut avoir.
Toute façon, à mon avis, c'est lâcher les références. Hein,
il faut que ça vienne de soi, mais on a toujours un modèle. Peut-être, ouais. Surtout quand on aime beaucoup lire, on a envie de ressembler peut-être à un auteur.
Alors ça, je dirais que c'est un peu le piège. Et c'est peut-être justement alors là le travail de l'animateur d'arriver à sortir les personnes de leur...
On peut s'enfermer dans un style d'écriture.
Dans leur style, de s'enfermer dans ce qu'ils pensent être l'écriture aussi. Et puis le formatage de l'école et alors par exemple pour les profs de français aussi de la formation, parce que ils ont, je pense que quand on est par exemple, je connais pas mal de profs de français qui sont dans une telle admiration des auteurs que ça les coupe de leur propre élan créateur. Parce que c'est intimidant, quoi. Enfin, on se dit, bon, voilà, lui, il a écrit ça, moi, je pourrais jamais... Mais on n'est pas du tout dans ce rapport-là, à ce moment-là. Enfin, moi, pour moi, dans les ateliers d'écriture, et même dans toute création, je crois que chacun a quelque chose à faire et à dire.
Sinon, on dirait tous, bon, ça a déjà été écrit, ça a été déjà peint, enfin, tout a été déjà fait.
Oui, or c'est faux, parce que chacun apporte sa touche. C'est extrêmement, d'ailleurs, émouvant dans les ateliers d'écriture, entre autres, mais bon, dans les ateliers, dans tous les ateliers que j'anime, de voir prendre forme l'univers de chacun. Et dans les ateliers d'écriture, il y a un moment que j'adore, c'est mon petit moment de paradis, on va dire, c'est quand l'écriture a eu lieu, enfin chacun a écrit, et qu'on prend le temps de la lecture à la fin de l'atelier. Et donc là, chacun, à partir d'une même proposition, alors je précise que c'est vraiment une proposition, que je ne suis pas du tout... Enfin, dans l'idée de poser des consignes, puisque pour moi, c'est apporter un fil, un conducteur, mais qui en aucun cas doit enfermer, et qui doit être comme... j'ai souvent l'image qui me vient, c'est de proposer un vase, quoi, en fait, une forme qui va recevoir ce que les personnes vont mettre dedans, en quelque sorte. Hein, c'est donner une espèce de contenant, quoi. Et voilà, à partir du même contenant, enfin, de la même proposition... Il surgit, voilà, des univers très différents parfois, pratiquement toujours, et la magie de la sensibilité de chacun qui s'exprime, qui prend forme, c'est, enfin bon, moi je m'en lasse pas, c'est, Super.
Et ça reste assez ludique aussi. Ça paraît, ce sont des exercices. Il y a des exercices aussi. Vous proposez beaucoup d'exercices, mais ça reste assez ludique.
Oui.
Et ouvert, surtout ouvert.
Oui, en fait, moi, je ne les vis pas comme des exercices, puisque pour moi, c'est plutôt...
De la recherche, non ?
Oui, oui, puis... Alors, je sais pas, j'y parviens pas à chaque fois, parce que, bon, c'est pas toujours facile de trouver l'élan, enfin, ce qui va ouvrir, en plus, qui va ouvrir pour tout le monde, pour plusieurs personnes, je veux dire, bon, c'est donc ça, c'est un peu le défi. C'est créer une forme de magie, quoi. C'est-à-dire de rêve, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est encore là que le rêve intervient, c'est que j'essaye de décaler, de surprendre par des propositions pour que les gens ne puissent pas s'accrocher à quelque chose qu'ils connaissent déjà. C'est créer une forme de décalage, quoi. Hop. C'est inverser les choses, c'est transformer, c'est être là où on ne m'attend pas. Alors souvent, en général, quand j'ai fait la proposition, je vois le visage de tout le monde qui me regarde atterré. Alors les premiers temps, je me disais, oh, ça y est, je vais tout bloquer. Et puis, en fait, non, parce qu'il faut cette espèce de... C'est comme un éclair, quoi. C'est une fulgurance, quelque chose qui fait un clash et qui, du coup, allume autre chose, allume un autre... d'autres, entre guillemets, d'autres canaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme... Enfin, j'ai du mal à exprimer, mais c'est ça, c'est partir dans ce qu'on n'imaginait pas qu'on allait écrire. Alors, quand la personne est surprise de ce qu'elle a écrit, alors moi, ça je bois du petit lait.
Voilà. Et puis, j'imagine que c'est aussi pas évident pour ceux qui viennent aux ateliers d'écriture, parce qu'il y a l'envie d'écrire, et puis il peut y avoir une sorte de pudeur aussi, puisque c'est un peu de soi qu'on dévoile dans l'écriture.
Oui, alors en sachant que, ce que je dis toujours, c'est que le texte n'est pas soi, donc c'est une partie de soi qui s'exprime à un moment donné, et je dis, c'est vrai que 5 minutes plus tard, on va écrire tout à fait autre chose, donc voilà. C'est pas d'enfermer la personne dans son texte, quoi. L'écriture, c'est bouge sans cesse. Bouge sans cesse. La création bouge sans cesse. Et on est sans cesse en mouvement. Et on n'est pas réduit à ce qu'on
écrit.
Qu'on produit, ou à ce qu'on crée, ou à ce qu'on écrit. Voilà. Donc, c'est un voyage permanent, voilà, que j'essaye d'accompagner le mieux que je peux, et voilà, et c'est pareil dans la peinture. Pour moi, c'est le même voyage dans le travail corporel aussi. Je suis toujours dans cette recherche de décalage, pas pour le plaisir de décaler, et pas pour le plaisir de mettre en difficulté les personnes, parce que bon, je cherche pas à les mettre en difficulté, je cherche juste à créer ce qu'on pourrait appeler ce petit éclair qui fait que plaf, on fait ce qu'on n'aurait pas attendu, ce qu'on se serait pas attendu à faire, quoi.
Voilà. Alors, j'aime bien quand vous mettez, je recherche une écriture organique et sonore, une écriture débarrassée du poids social et culturel, une écriture qui se nourrit d'expériences sensorielles. C'est vraiment ça. Enfin, c'est
exactement.
Être...
Et alors c'est là que je peux parler du projet de départ. Quand je suis arrivée ici avec les ateliers d'écriture, j'ai créé tout de suite une association qui s'appelle Transversale, qui existe toujours, donc, et dont le projet est plus que jamais le même. C'est-à-dire que je me dis, j'ai pas du tout... je suis arrivée avec ce projet et ça reste vraiment quelque chose de très fort pour moi. L'idée de... Donc, Transversale le dit, mais c'est de relier... justement les pratiques entre elles, c'est-à-dire l'écriture, les arts plastiques et les pratiques corporelles, puisque j'ai pas trop parlé, mais j'ai depuis toujours, j'ai pratiqué beaucoup de sport, mais surtout, je suis rentrée vraiment dans une pratique plus poussée, qui est le kinomichi, dont je parlais tout à l'heure un petit peu, qui est issu de l'aïkido, mais là où on n'a pas... on est dans ce même type de mouvement, mais sans recherche de combat. On n'est pas dans la notion martiale, on est dans une notion de recherche d'harmonie. Et le mouvement est très beau, très fluide, très chorégraphié, c'est-à-dire que c'est assez, enfin, je ne vais pas dire technique, mais si, on peut dire quand même. Mais on est dans un travail d'étirement, de spirale. C'est très beau. C'est très proche de la danse, d'ailleurs. Ça se pratique avec un partenaire. Donc, c'est à la fois être soi-même centré dans le mouvement, à l'écoute. Ça demande une écoute très, très, très profonde de là où on est soi-même. Et puis, l'écoute du partenaire, parce que si on n'est pas à l'écoute, le mouvement ne se fait pas ou mal.
Oui.
Voilà. Et donc, en fait, c'est ce lien. Donc, la création transversale, c'était autour, finalement, de ce qui me plaît. Très modestement, je me dis que, je fais beaucoup par rapport à, ce que je sais faire. Et donc, c'était relier l'écriture aux arts plastiques, donc à la peinture, mais ça peut être à d'autres pratiques. Et au corps, parce que pour moi, c'est peut-être l'idée de cette écriture organique, c'est-à-dire c'est pour essayer vraiment de pousser l'écriture dans ses retranchements, c'est-à-dire de rendre l'écriture la plus vivante, la plus authentique possible, la plus débarrassée possible des idées toutes faites qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un beau texte, je dis toujours que l'idée n'est pas de faire beau, parce que je veux dire, quand on a l'idée de faire beau, on rentre dans quelque chose qui est très formaté, on perd un peu justement la surprise, on perd le feu intérieur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire qu'on perd l'âme. La petite flamme,
l'authenticité.
Oui, je parle d'authenticité. Authenticité, on pourrait parler de vérité, mais c'est déjà un mot un peu fort, qui prétendrait à une espèce de, tout d'un coup, de comment dire, comme s'il y avait quelque chose d'absolu, mais non, on est dans quelque chose où très vivant, où la personne justement peut être vraiment en lien avec des émotions. Alors, c'est pas exprimer ses émotions, parce que l'idée de la création, c'est quand même de pouvoir les transformer, ces émotions, pour en faire quelque chose, pour leur donner une forme. Mm-hmm. Et le fait de leur donner une forme, ça les rend plus puissantes. Et donc, la forme, ça peut être effectivement la forme littéraire, ça peut être la forme graphique, plastique. C'est en fait toujours déclencher cette petite flamme. C'est ce que je parlais d'éclair tout à l'heure. Moi, je suis assez dans le feu. Et pour moi, je pense que peut-être que là encore, par rapport au processus de création, ils peuvent être sans doute différents. Pour moi, le corps est le vecteur. C'est là que ça démarre pour moi. Parce que je sens que, en tout cas dans mon expérience personnelle, quand je suis vraiment dans une pratique corporelle qui m'a amené à un état, je dirais que je recherche ça, un état de paix, on va dire de détente, là, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai accès à une création justement authentique et vraiment qui peut être très puissante. Alors, c'est vraiment les instants de grâce, parce que c'est pas tout le temps. Et puis, j'ai aucune prétention dans tout ça. C'est pas tellement, finalement, le résultat qui compte tant que ça. C'est presque plus le vécu de cet instant, de ces instants où tout d'un coup, on est vraiment, comme je parlais tout à l'heure dans la danse, quoi, on parlait de transe, mais on est vraiment dans un état d'unité très fort, où... C'est vraiment contact, accentué, aigu avec la réalité. C'est-à-dire que tout devient plus réel encore, quoi. Et la création, à ce moment-là, c'est amener du réel, amener encore de la réalité, enfin, créer de la notre propre réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on a cette capacité, nous, être humains, alors je ne sais pas si les animaux peuvent le faire, mais de créer, justement d'apporter quelque chose. D'apporter.
On va écouter Brian Ferry, I am in the mood for love, juste avant de parler de l'atelier transversal à la pépinière d'artisanat d'art du chafaud. À tout de suite. Voilà, on vient d'écouter cette très belle musique du film I'm in the mood for love, et donc composée par Brian Ferry. Et on retrouve Marianne Grand pour ce dernier petit quart d'heure pour parler justement de création de l'atelier transversal à la pépinière d'artisanat d'art du Chaffaut. Alors, un atelier à la campagne où vous travaillez la danse, la peinture et l'écriture. Et ce sont des ateliers, bien sûr, ouverts aux petits et aux grands. Il y a des cours adultes et enfants. Alors, on parlait du son, justement. J'ai envie de reprendre. Ouais. J'ai souvenir de ce travail de percussion avec Nicolas Allwright. C'était intéressant aussi. Et justement, je voulais vous demander, par rapport à les ateliers d'écriture, j'imagine, ont évolué, puisqu'on parle du son, on parle du corps, de l'expression. Donc, à quoi ressemble un atelier maintenant d'écriture
Alors, en fait, tout dépend. J'ai conservé des ateliers dans le cadre de l'UPRO, qui sont plus traditionnels, ben, je veux dire, fonctionnent toujours un peu sur le même registre de, d'écriture, enfin, vraiment basé sur l'écriture, enfin, à partir de textes, enfin, je travaille toujours avec des autres, enfin, à partir de textes d'écrivains. Et donc là, j'ai conservé le fonctionnement traditionnel. Et alors, par contre, effectivement, après, dans cet atelier qui se trouve donc au Chaffaut, dans le parc d'activités Saint-Pierre, qui se trouve.
Donc c'est sur la route de Carmejane, voilà, et de suite à droite, quand on a passé le village du Chaffaut,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est ça, c'est juste à la sortie du Chaffaut, en contrebas. J'ai la chance d'avoir un magnifique atelier.
C'est assez grand, il me semble.
C'est 80 mètres carrés, donc c'est très grand. Que j'ai aménagé pour pouvoir justement pouvoir faire un travail corporel, mais disons justement pouvoir travailler le mouvement,
toute liberté.
Voilà,
il y a de l'espace.
Y a de l'espace. Et puis donc au mur, il y a des panneaux que j'ai installés pour pouvoir peindre. Avec le projet, en fait, de peindre en mouvement, pour l'instant, je ne suis pas encore allée... J'y m'en approche, mais je dirais que voilà, c'est un travail pour moi. Donc, parce que cet atelier est aussi mon lieu de création, donc j'expérimente des choses, la peinture surtout. Et donc, dans cet atelier, là, je pousse en fait le projet transversal au bout, enfin au bout, un des bouts on va dire, en reliant donc au sein d'un même atelier, et là c'est sur 3 heures, le mouvement qui va jusqu'à la danse, la peinture et l'écriture. Et donc c'est vrai que là le corps est vraiment le guide, hein. C'est l'approche se fait d'abord par le corps, c'est-à-dire par une écoute déjà corporelle et des mouvements très doux, qui amènent une détente et une sensation de...
Parler d'une relaxation dynamique, en fait.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'après, l'idée, c'est d'être en mouvement. On peut être à un certain moment donné un peu immobile, mais bon, voilà, l'idée, c'est d'amener vers un mouvement, mais vers une fluidité, en fait. Et plus on est fluide, je trouve, intérieurement, plus on peut ensuite avoir accès à quelque chose que j'appelle... Alors, je sais qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que j'entendais par nécessité ou organique. Il y a un monsieur qui s'appelle Arnaud Stern qui a travaillé sur la peinture et qui parle de cette nécessité organique. Alors, pour moi, j'entends nécessité qui part du corps, en fait. Hein. Mais j'irais, moi, je disais nécessité intérieure. C'est-à-dire que je sens que à un certain moment donné, quand je travaille par la danse ou par des mouvements comme ça très respectueux et qui sont vraiment qui demandent une écoute très fine, c'est pas bouger pour bouger, c'est pas parce que après on peut danser, c'est pas un problème parce que c'est très très agréable de danser, de se laisser aller. Mais là, le projet est vraiment de rentrer dans quelque chose de très fin et de repérer en fait. Voilà, quel est le mouvement qu'on a au final, enfin d'arriver vers ça, en tout cas, de tendre vers ça, c'est-à-dire produire le mouvement qui est bon pour nous, quoi, qui est juste pour nous. Et c'est pas le même pour chacun. Je veux dire que pour l'un, ça va être certaines choses, déjà parce que par notre complexion physique, enfin on a des possibilités les uns et les autres différentes. Mais en tout cas, voilà, et c'est créer cet état de fluidité qui favorise la disponibilité, la réceptivité. C'est une forme effectivement proche de la méditation en mouvement, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que
ça rejoint le travail de Jean-Claude Bressac beaucoup. Enfin, oui, être dans le ressenti, voilà, dans la perception, voilà. avant de faire naître le mouvement, voilà. C'est vraiment d'être dedans, quoi.
Voilà.
C'est de savoir d'où ça part.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que là encore, c'est pas plaquer quelque chose de l'extérieur, comme pour l'écriture. Mm-hmm. Hein. C'est pour ça que je cherche le passage par le corps, parce que ça, plus qu'ailleurs, c'est là qu'on est dans le ressenti. Et qu'on va contacter des choses qui vont être d'ailleurs différentes pour chacun. C'est vraiment cette histoire de petite flamme, quoi, où, qui est pas la même pour tous, pour chacun. Et donc... voilà, et le corps nous donne accès à ça, je trouve, et est un guide. Moi, je dis, c'est un guide fabuleux. Enfin, plus je l'expérimente, je dis, je suis vraiment émerveillée par le fait que voilà, quand on commence à être à l'écoute, et or moi, bon, c'est vrai que par la pratique du Kinomichi depuis plus de 25 ans, c'est devenu, je dis, je rentre comme dans le mouvement comme dans un chausson, parce que... Non, enfin, dans plusieurs chaussons, ce sera mieux. Mais disons, voilà, parce que je me coule dans le mouvement, parce que maintenant, j'ai cette sensation-là, en tout cas. Pas dans l'idée de produire du beau, hein. Mm-hmm. Je veux dire, mais en tout cas, dans un plaisir intense, vraiment, très, très grand, d'être dans le mouvement qui me fait du bien et qui m'amène, après, à la peinture, par exemple. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très juste. Alors, ce n'est pas dans l'idée du résultat, mais comme ce que je disais tout à l'heure, c'est plus dans le vécu, dans le ressenti du moment, c'est-à-dire ce qui va se produire à ce moment-là. Et je trouve que, quand même, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire entre cet état-là, est-ce qu'on produit parce que à ce moment-là il y a quand même c'est vrai que c'est cet état de grâce, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un état d'unité où on touche quelque chose de fort et qui tend vers l'universel, qui tend vers dans le sens qui touche les autres et c'est un espèce d'abandon ainsi, hein, il y a une espèce de c'est à la fois une grande présence. Et le corps permet donc cet état de présence, comme je disais tout à l'heure, c'est l'acuité de tous les sens en fait. Hein. Le corps, voilà, c'est par le corps on se, j'allais dire, on devient presque plus grand, on se déploie, on peut se déployer et ressentir encore plus. Et cette sensibilité, cette extrasensibilité permet ensuite de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai encore du mal à expliquer tout ça, mais permet d'avoir accès à une création qui peut être très, très forte, très puissante. Et en tout cas, qui procure beaucoup... Enfin, moi, qui me procure beaucoup de joie, quand j'ai la joie de l'expérimenter, quand ça marche, quoi. Mais je vois aussi qui produit énormément de joie chez ceux qui la vivent, quoi. C'est parce que tout d'un coup, c'est cet état d'accord. Enfin, je parlais d'unité, mais c'est avec des mots peut-être plus simples, dire on est tout d'un coup, on se sent en accord avec soi-même, quoi, avec ce qu'on est profondément, et il n'y a plus de barrières. C'est un état de
grâce, voilà.
Voilà un état de grâce, et puis de se fondre un peu dans voilà ce qu'on fait, dans ce qui se produit à ce moment-là.
Marianne Grand, le temps passe très vite, il nous reste que quelques minutes. Alors j'aimerais bien sûr qu'on donne un peu de précision sur ces ateliers où on peut vous retrouver pour créer encore plus et expérimenter tout ça. C'est vraiment voilà de l'expérimentation avec sa propre authenticité, avec son être.
Je pense que c'est vraiment c'est cette idée de d'expérimenter, que chacun vive lui-même, trouve lui-même ses outils, trouve...
On s'éloigne de l'enseignement classique qui a fait tant de dégâts. Alors, les ateliers de création plastique et poétique pour les enfants.
Alors là, c'est tous les mercredis, sauf pendant les périodes scolaires. De vacances, je veux dire. Argue. voilà, c'est de 15h à 16h30, donc à l'atelier transversal au Chafaud. Je sais pas, après, peut-être on peut donner mes coordonnées.
Oui, pour bien sûr. Alors, il y a une adresse mail déjà, Marianne avec deux N, point grand, @free.fr.
Voilà.
Et puis vos coordonnées téléphoniques, je vous les laisse donner.
Donc, 06 66 95 67 75. Et il y a donc aussi l'atelier donc, de création transversale qui a lieu une fois par mois. Le dimanche. Donc les dates sont, il faudrait me contacter pour
voilà,
savoir.
Je crois qu'on
mais
on va répéter.
Le prochain, je vais juste peut-être quand même dire que le prochain atelier a lieu donc dimanche 24 février. Et donc c'est de 14h à 17h, à l'atelier du transversal au Chafaud. Voilà.
Marianne Grand, merci. C'est déjà l'heure de nous quitter. Il va y avoir les informations de RFI. À très bientôt. Et puis moi, je pense que je vais me réinscrire aux ateliers d'écriture. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.